Alors, merci d'être restée avec nous. Caroline, merci à nouveau d'être là. Et Audrius nous a rejoint, donc je vous laisse discuter. Et voilà, vous êtes aussi en présence d'Émile Bertera, que je remercie tous les soirs d'être présent pour assurer l'interprétariat. Alors, je te laisse le micro, Audrius.
Hello, Audrius. Very pleased to see you again.
Yeah.
Je te laisse traduire ensuite. Thank you for these two beautiful films. Mais on va commencer à discuter, mais bien sûr, vous pouvez poser des questions à tout moment. Hein, c'est important que vous puissiez vous aussi dialoguer avec Audrius et lui poser les questions que vous avez. Je disais tout à l'heure que c'était des films qui posaient beaucoup de questions, justement. Et véritablement, ils posent des questions aux spectateurs et ils résistent absolument à la tentation d'y répondre. Et particulièrement, Kenotaph, le premier des deux films, nous emmène dans un questionnement qui pose la question de la relation de la mémoire, du rapport à la mort et au temps. Mais il y a comme une sorte de contradiction dans cette enquête. Il y a d'un côté les hommes qui creusent profondément, et puis il y a d'autre part le film qui nous incite à prendre de la hauteur. Et on se demande justement si on a envie que le mystère soit élucidé.
I think this is a very interesting and very correct perspective to see the film, because I was asking myself many times the same question: do I need to find those soldiers? And we spend a lot of time digging and digging and trying to find them. But then at a certain moment, I thought, why? Maybe they should stay in the ground. Maybe they already became part of the nature. So what is the reason of putting them back? But I have this old man in whose land those three soldiers are laying. He asked me to do, because he said, I cannot sleep peacefully because of these three people are laying buried like animals, like a people without proper respect. He said, please find them and let them bury properly. And for me, why I decided to make that film, because for me it was very interesting. All those three men, they were intruders into our country. These two Russian soldiers, they were part of this occupation army. The German, the Nazi, was again occupying Lithuania. They, all three men, were our enemies. But at the same time, he said, no, it doesn't matter. It doesn't matter anymore. They used to be people, and they had to be buried with the proper respect.
Oui, alors merci pour la pertinence de votre regard sur le film. Je me suis posé moi-même ces mêmes questions, en fait. Est-ce qu'on a besoin de trouver ces soldats? On a passé quand même un certain temps à creuser, à essayer de les chercher, et souvent je m'interrogeais sur la nécessité de cette recherche. Peut-être qu'il fallait les laisser sous terre, d'autant qu'ils étaient déjà intégrés à la nature. Donc effectivement, pourquoi les déterrer à ce moment-là? Mais en fait, c'est le vieil homme qu'on voit dans le film qui est le propriétaire terrien où ont été enterrés ces trois hommes qui, lui, m'a un petit peu mandaté. Il me disait qu'il n'arrivait pas à dormir paisiblement tant qu'on n'aurait pas retrouvé ces trois cadavres. Et il disait, voilà, ils sont enterrés comme des animaux. Il faut leur donner une sépulture, il faut les respecter. Et je me suis dit, on tient là un film intéressant, d'autant que les trois hommes qui étaient enterrés dans son terrain, c'était des hommes pris en pleine intrusion, en fait, puisqu'on a deux soldats russes. À l'époque, la Russie était en train d'occuper, à une certaine époque, la Lituanie. Et puis, on avait aussi un soldat nazi. Les nazis aussi, à une certaine époque, ont occupé la Lituanie. Et bien que ce soit donc factuellement des ennemis, ce propriétaire m'a dit, peu importe, vu la situation, c'est avant tout des hommes et il faut les respecter.
So for me it was interesting two aspects. The one, how death makes us equal and how death suddenly turns back us to people that deserve respect. Then we are alive, we are enemies, we are friends, but then we die, then we are just people. And the people who demand this last respect. And the second question was, you know, how nature is, how all these people who are buried, they are not the only ones who are still in the ground, how time turns them into leaves, into the grass, into the nature, how nature, how they became nature. So that was another question that was very interesting and important for me.
J'étais intéressé particulièrement par deux dimensions pendant la réalisation de ce film. Tout d'abord, c'est notre égalité face à la mort. C'est-à-dire que la mort nous rend, d'une certaine manière, notre humanité. Dans la vie, on peut être ennemi, on peut être allié, mais face à la mort, on mérite tous le même respect. Et puis, il y avait une deuxième question aussi qui me paraissait pertinente. Et évidemment, ce ne sont pas les seuls hommes à avoir été enterrés dans cette circonstance, mais comment le temps, en fait, les a fait évoluer vers l'état de nature. C'est-à-dire, ils se sont transformés en racines, ils se sont transformés en herbes, et comment ils sont passés de l'état de cadavre à l'état de nature.
C'est drôle comment tu parles de ton implication dans le film, mais aussi dans l'aventure de ces hommes. Et en même temps, on n'est pas surpris puisque il y a un autre film que peut-être certains ont vu qui s'appelle The Bell, qui raconte l'histoire d'une quête, aussi d'une quête mythique dans laquelle les hommes s'engagent. Dans ce cas-là, c'est l'histoire d'une cloche, de la cloche du village qui a disparu dans un lac, ou en tout cas l'histoire de cette cloche. Mais la résolution est très différente dans un cas et dans l'autre. Et à nouveau, ça pose la question du statut de la vérité dans tes films. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Puisque dans le premier cas, il n'y a pas d'élucidation. Voilà. Dans le cas de la cloche.
Yeah, there is no answer in the bell. And then I was making the cenotaph. I thought, okay, this is my destiny. I'm looking for something, I never find something. Okay, I thought, this is my film again. I'm going to look for something and I'm not going to find. And by chance, after 3 months of this very intensive investigation, research, archaeological research, with all kind of equipment, we finally found those. So, and suddenly, it's a different film. But at the same time, the question still remains. And I have to tell why I like the documentary more than fiction, because I already told before, the fiction, it starts from A and finishes B. That's it. There is no life before and there is no life after fiction film. But in documentary film, the life still goes on. And I have to say that, I have to tell this story that, okay, I thought my film ended there. I found those bones, and I thought, okay, this is it. And I finished, actually, the film. But then another film started. Some film that was never recorded and never made, but it was kind of, now it's very surrealistic film, because it was no problems with the German soldier. We contacted Germany, they took the bones and they buried in Vilnius in the military in the cemetery. So, and it was done. I was in peace. But then with the Russian soldiers, that was a different story. Because the same way, I contacted the Russian embassy and I said, look, I have two of your soldiers. Would you like to take them and bury with respect? And they say, no, we're not going to take them because we don't have agreement between Lithuania and Russia about the exchange of the dead soldiers. And I said, so what can I do? Then I said, okay, I will bury them. I say, no, you can't do this, because then you will end up in the court, because then it means that you are trying to hide the evidences. And it was like a situation where I couldn't do anything. So I cannot give them to the Russian embassy, I cannot bury myself. So for 1 year, I kept them in the office. Two coffins with the bones were laying in my office. I even wrote a paper to our parliament asking, what should I do? And they promised that they will make it like a commission, that they will, committee that will decide the destiny of those bones. And after 1 month, they said, this is not a priority question and we're not going to make this commission. So again, I left with those bones for one, like half a year more.
Alors oui, effectivement, dans Vebel, il n'y avait pas d'élucidation à ce mystère. Et puis en fait, quand je suis tombé sur le sujet de ce film, je me suis dit que c'était peut-être mon destin, en fait, de faire des films qui parlent de quêtes sans trouver de réponse. Puis par hasard, en fait, au bout de 3 mois de recherche assez intensive avec des outils d'archéologues, on a fini par trouver, et ça a complètement changé, ça a bouleversé le cours du film. Et la question, je pense, quand même reste en jeu. Et la raison pour laquelle je me range bien plus du côté du documentaire que celui de la fiction, c'est que dans un film de fiction, j'ai déjà mentionné ça, mais on va d'un point A à un point B. On a la sensation qu'il n'y a pas de vie qui préexiste au film et il n'y aura pas de vie après. Dans le documentaire, on a au contraire la sensation que la vie continue une fois que le film se termine. Et je dois dire qu'une fois qu'on avait découvert les ossements, je pensais que le film serait fini. On allait terminer le tournage sur la découverte. Et puis en fait, il y a un autre film qui s'est enclenché, bien plus surréaliste en fait. Puisqu'on a contacté les autorités allemandes pour leur parler des ossements du soldat allemand. Et ils ont organisé un enterrement au cimetière militaire de Vilnius. Et c'était un processus assez paisible. Pour les soldats russes, en revanche, ça a été beaucoup plus difficile parce qu'on a pris contact avec l'ambassade pour les prévenir, voilà, qu'on avait trouvé deux de leurs soldats. Et ils ont refusé de s'en occuper sous prétexte qu'il n'y avait pas d'accord bilatéral entre la Lituanie et la Russie sur ces questions-là. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais le faire moi-même. Je vais enterrer moi-même ces deux cadavres. La Russie m'a dit, si vous le faites, on vous fera un procès parce que vous êtes en train de cacher des preuves de guerre. Donc j'étais un peu pieds et poings liés. Je me suis demandé ce que je pouvais faire. Et puis pendant un an, j'ai eu comme ça deux cercueils dans mon bureau avec les ossements de ces soldats. J'ai quand même fini par écrire une lettre au Parlement lituanien pour leur parler de ce problème. Ils m'ont certifié qu'ils allaient établir une commission au Parlement pour en débattre. Et puis, au bout d'un mois, j'ai une nouvelle lettre qui dit, en fait, c'est plus une priorité et on annule cette commission. Et donc, ces deux cercueils sont restés 6 mois de plus dans mon bureau.
So, I asked some, like unofficially, I said, how can I solve this question? And they say, somebody said, okay, you take those coffins, you go to the railway station, and you go to the direction of Belarusia. You will, on the border of the Belarusian, Lithuanian-Belarusian border, you will be arrested. because you are illegally transporting the bones, the corpse of people. And then they will keep you like two weeks in the prison, but they will confiscate those bones, and then it's their problem. They have to deal with that. But that was, I didn't subscribe to that thing.
Puis on m'a demandé, assez officieusement, je dois dire, de résoudre ce problème en fait en emmenant mes deux cercueils par le train à la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie. On m'a dit, bah, à la frontière, tu vas forcément te faire arrêter parce que c'est illégal de transporter ces deux corps. On va probablement t'incarcérer pendant 2 semaines et c'est à ce moment-là qu'on va confisquer les cercueils et puis ce sera plus ton problème. Et j'étais pas vraiment convaincu par cette hypothèse.
So at the end, I got the solution after a long, long time. Somebody said, one historian, he said, but who can say if that these are Russian soldiers? Maybe they are German soldiers, maybe they are known soldiers, maybe they are Lithuanian soldiers, nobody knows. So just bury them like an unknown soldiers. So that was the solution. And I buried them in a Russian cemetery with a Russian priest. I kept all the data of these soldiers because I know even their surnames, Rakin and Levin. But they were buried in Lithuanian and Russian cemetery as unknown soldiers.
Et en fin de compte, après avoir quand même beaucoup cogité, j'ai trouvé une solution qui m'a été suggérée par un historien. En fait, il m'a dit, qui peut attester que ce sont des soldats russes? Ils auraient très bien pu être allemands, ils auraient pu être lituaniens. Donc on les a enterrés en tant que soldats inconnus dans un cimetière russe, mais en Lituanie, avec une cérémonie officiée par un prêtre russe. J'ai quand même conservé toutes les informations que j'avais sur eux, notamment leur nom de famille. Il y en avait un qui s'appelait Rakin et l'autre Levin.
Et c'était combien de temps après le film, du coup?
Usually I say that it takes time to go out from one film to another because you still live with the film. So I think it took at least 2 years for me to start thinking about something else because you always with the same thoughts, with the same ideas, and it's very difficult. You cannot switch like that and to start making another film. So it takes time.
D'habitude, je prends quand même un certain temps à passer d'un film à un autre, parce que je suis là à ressasser mes projets. Et donc, généralement, ça me demande 2 ans pour passer d'un projet à l'autre. Je ne peux pas passer en un claquement de doigts d'un film au suivant.
Est-ce qu'il y a peut-être des questions à propos de ce film, peut-être qu'on parle du coup Kai, ou je ne sais pas combien de temps on a, Marion, donc je ne voudrais pas qu'on... Ça va, ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, ici et là-bas.
So in the film with the digging, because I forgot the name of it, but how much did you find yourself wanting to observe them, and how much did you find yourself wanting to participate in the excavation with them?
Donc c'est une question sur Kenotaph. Quelle serait, disons, la proportion dans laquelle vous avez envie d'être un observateur quand vous tourniez et la proportion dans laquelle vous aviez envie d'être partie prenante des recherches?
No, it's out of question. I was always present, and that was I was thinking and I was planning with them. So I never leave my cameraman alone. So I'm always part of this investigation. So that was my also the very personal quest. I wanted to find. I eagerly want to find them. And then I realized actually how difficult it is. And some body is buried in the ground. It could be anywhere? And how can you dig the right place? Recently, I saw the film of Guzman, the Nostalgia de la Luz, where these women are looking for their relatives that died during the Pinochet regime in the desert. And it's a vast, 1,000 kilometers, and they don't know where they buried. They still are trying to find. We have much smaller area, and it was so difficult to find those bodies buried.
Alors, j'étais effectivement toujours présent pendant les fouilles. Je faisais partie de tous les stades de l'enquête. J'ai jamais laissé seul mon chef opérateur filmer pendant que j'étais pas là. Et c'est une enquête d'ailleurs qui est devenue assez personnelle, qui me tenait à cœur. J'avais vraiment la volonté de retrouver ces corps. Et je me suis aperçu d'ailleurs de la complexité de l'entreprise dans laquelle on s'était lancé. C'est-à-dire que c'est des corps qui auraient pu être enterrés n'importe où sur le terrain. Et c'était un casse-tête de cibler le bon endroit. Et j'ai été frappé quand j'ai découvert le documentaire de Guzman qui s'appelle Nostalgie de la lumière, où en fait on a comme ça des femmes qui sont à la recherche de leurs proches qui ont été enterrées sous le régime de Pinochet dans le désert. Donc il y a des milliers de kilomètres carrés qu'il faut chercher. Et là, on avait une surface qui était bien plus petite et pourtant c'était une tâche extrêmement ardue.
But one of the reasons probably why we didn't find those sooner, all these bodies, because we looked everywhere, but exactly on the place where these three bodies were buried, it was a beautiful young tree growing on the top. And we didn't want to cut the tree. So we were looking around, saving that tree, but actually those bodies were under that young tree.
Une raison qui explique aussi la durée de la fouille, c'est qu'on avait cherché vraiment partout, sauf sous un très jeune arbre, parce qu'on ne voulait pas le déraciner. Et il se trouve qu'évidemment, les trois corps étaient sous cet arbre.
Il y avait une deuxième question.
Alors pour moi, De Bell et Kenotaph n'ont rien à voir, parce que De Bell est une légende, depuis le début jusqu'à la fin. Et Kenotaph est un crime et quelque chose qui a été caché et qui restera caché parce que ceux qui ont commis les crimes ne veulent pas dire pourquoi ils ont vraiment tué ces gens. Donc déjà pour moi ça c'est totalement différent. Ensuite on sait assez rapidement qu'il s'agit de deux soldats russes et d'un soldat allemand. Donc, on a le fin mot de l'histoire, je dirais, globalement. Et par contre, moi, ce qui m'a frappé, c'est la nécessité de déterrer ces gens. Et je me suis demandé si ce n'était pas fondamentalement une question religieuse. Les enterrer en entre guillemets, terre sainte, avec tout le décorum de la religion. Et parce que au moment où la question se pose de ne plus savoir où les mettre, il y a quand même cette réflexion, ce serait bien de les remettre dans la nature, ne serait-ce que pour qu'ils soient enterrés.
I have to say that Lithuania is the country who is the last country in Europe who accepted Christianity. And we are very strong Christians. But at the same time, this pre-Christian beliefs are still very much alive. And we have very special relationship with our dead ones. We have this cult of cemeteries. We go there, we light candles, we take care about the cemeteries. The cemetery is very important part of our mentality, of our understanding of life. This connection with the dead ones is very important. So that's why for that person, this understanding that three people are laying alone there, nobody will light a candle, nobody will bring a flower, nobody will take care. For him it was unbearable. And of course it was a crime. I can tell you, I don't remember, I think there is, this story is not in the film, but two soldiers, they were found dead. And this, the father of this old man, he found them. And he was afraid of everybody. He was afraid to report for Russians at that time, because the Russians will say, you killed them. So he buried them secretly. With this, the German officer, he was an officer, but that was a different story. He was severely wounded, and he was sitting in the garden, bleeding there. So, and the Russian soldiers came, but he was so bad, he was so badly wounded that they wanted to kill him, but the officer, Russian officer, said, leave him, he's going to die soon. We don't need to do that. So the father of this man, he took this German officer to his house, put in the bed, and even gave strawberries. And this man, he was a boy at that time, he remember how this German officer was eating strawberries, and his shirt was red from the blood. And in 1 hour or a few hours, he died. So, but of course, in both cases, what it was injustice. And you're right, it's different. It's not a fairy tale. It's not a legend. It was injustice made to those people. So at least, it should be given a respect afterwards. So that is understanding of my character, the man who asked me to do that.
Alors, je pense effectivement que d'une certaine manière, il y a une dimension de rite plus que de religion, puisque la Lituanie est le dernier pays en Europe à avoir laissé entrer le christianisme. Et on a quand même des croyances qui datent de notre époque pré-chrétienne qui restent très fortes, et notamment tout un tas de traditions autour de la mort. Les gens passent beaucoup de temps dans les cimetières à allumer des bougies, à s'occuper des défunts. Et ça, je pense que c'est vraiment ancré dans la mentalité lituanienne. Et ce qui explique aussi pourquoi, pour ce propriétaire, il faut pouvoir enterrer ces gens dignement avec des bougies, en leur apportant des fleurs. Pour lui, c'est insupportable que ces gens soient enterrés comme ça dans la nature. Vous avez raison, cela dit, c'est un crime. Et d'ailleurs, il y a une histoire qu'on n'a pas inclue dans le film. Mais le père lui-même du propriétaire a trouvé les deux soldats russes qui étaient morts. Et il a vécu dans la peur d'aller informer les autorités russes parce qu'il aurait pu se retrouver accusé d'avoir tué ces deux soldats. Alors que l'officier allemand, parce que c'était un officier, il a été trouvé, lui, blessé. Il était gisant dans le jardin. Il y a des soldats russes qui ont traversé le jardin à un moment et qui ont hésité à le tuer, mais leur officier, justement, les en a empêchés en disant qu'il était déjà condamné et qu'il allait mourir. C'était seulement une question d'heure. Et donc le père du propriétaire a amené cet officier allemand chez lui. Il l'a mis dans son lit. Il lui a donné des fraises pour le nourrir. Et d'ailleurs, il y a cette anecdote que m'a raconté son fils, donc le propriétaire terrien, qui est qu'en fait, il avait sa chemise taché de rouge, le rouge des fraises qui se mélangeait au sang, et il est mort comme ça quelques heures après. Donc on a effectivement une grande injustice qui est très, très présente, et donc il faut effectivement accorder un respect à ces morts, et c'est pour ça, je pense, que mes personnages se battent à ce point pour trouver un lieu où les enterrer.
C'est beau cette histoire de l'arbre, parce que l'arbre est un personnage très présent dans le film. Il a une présence très très forte, comme d'un témoin impassible et silencieux qui regarde les hommes voilà, s'évertuer à essayer de trouver voilà, et peut-être qu'il ne devrait pas. Donc il témoigne de ce questionnement, en fait, il porte ce questionnement d'une façon très très belle. Peut-être pour parler de Uku Ukai, même si il y a bien sûr ce rapport au temps et à la mort dans le film, mais ici, contrairement à cette enquête qui est presque un suspense, Il n'y a pas du tout de narration, pratiquement pas de parole. Et là, ce qu'on trouve dans ce film, c'est ce rapport à l'intimité, au corps, qui est assez extraordinaire. La façon de filmer les corps, les peaux. Et puis, une chose que, voilà, qui m'avait déjà beaucoup intriguée quand j'ai découvert tes films au début, c'est la capacité de filmer le sommeil des gens. Véritablement, quoi, les gens qui dorment vraiment. On voit ça aussi dans Ramin, avec cette scène magnifique où on voit que son torse, sa respiration et son petit chat qui respire au même rythme que lui. Et j'aimerais que tu nous parles, parce que ça caractérise ta façon de travailler et aussi ta conception du cinéma. Comme on a vu, tu filmes et tu es avec les gens, tu participes à leurs projets. Et le fait que tu puisses filmer les gens qui dorment, ça raconte quelque chose de cette coexistence ou de cette coprésence tout à fait exceptionnelle dans tes films.
Yeah, this sleeping, I have quite many, in many films I have this sleeping scene. For me, this sleeping itself is kind of very, very mysterious phenomenon. Because we are alive, half alive, half dead. We are dreaming, we are thinking, but we're not aware of that. And our dreams are very strange. And so it is kind of very strange state, and I had this dream to make about dreaming people, sleeping people. So I didn't want that this woman would pretend that she's sleeping. I really wanted her to sleep. I really wanted her to be in this mysterious state. And for me, this is a portal or gate to something like inner life or different life. So that's why I am so fascinated by the sleeping. And the second answer, the second aspect of this is, it's always... Then the person sleeps, he never lies. We never lie. We lie intentionally or unintentionally, but we lie. But when then we sleep, we don't. So for me, this moment of truth is also very precious. So I already probably told in my master class about this. But it was a very, very interesting and how we filmed this, how we asked her to sleep, and she was accepted of us, and she was sleeping peacefully, no matter of all the sound and light and everything that was happening there, and. For me, this I cannot make film if I don't have this total trust. So the person agrees to sleep. I think I understand. Okay, I reach this. I have this total understanding and total trust. So I had with this old woman, and she became the main character of my film. It was not at the beginning. I didn't think she will become, but at the end, she became a main character of the film.
Oui, c'est vrai que c'est récurrent dans mon cinéma, effectivement, des séquences de sommeil. Il y en a dans beaucoup de mes films. pour moi, c'est un phénomène qui est très mystérieux. On est entre la vie et la mort. On a la sensation que les gens sont en train de penser, les gens sont en train de rêver sans même en être conscients. C'est un état qui est tellement particulier. Je rêverais de faire un film sur les rêves de mes dormeurs, justement. Et ici, il fallait vraiment qu'on sente que cette femme ne fait pas semblant. Il fallait que ce soit un sommeil véritable et qu'on atteigne cet état si particulier qui me fascine. C'est comme une sorte de porte qui nous permet d'atteindre la vie intérieure des personnages, en fait. Et c'est peut-être pour ça que ça me bouleverse autant. Puis il y a une deuxième dimension aussi qui m'intéresse dans le sommeil, c'est que personne ne ment quand il dort, en fait. Quand on est éveillé, qu'on soit conscient ou pas, on ment d'une certaine manière, mais on atteint un vrai moment de vérité dans le sommeil, et c'est ça que je chéris aussi dans mes films. J'ai raconté d'ailleurs dans ma masterclass une anecdote sur le tournage de cette scène, mais on avait demandé effectivement à cette femme si elle accepterait de dormir devant notre caméra. Elle a parfaitement accepté et accueilli notre présence, malgré le son de la pellicule dans notre caméra, malgré toutes les lumières qu'il y avait sur notre plateau. Pour moi, c'est un petit peu la condition sine qua non pour me lancer dans un film. Il faut une confiance absolue. Et donc, quand j'ai l'accord de quelqu'un qui accepte d'être filmé dans son sommeil, c'est qu'on a atteint une compréhension mutuelle et un stade de confiance. Et cette femme, d'ailleurs, est devenue... par la force des choses, le protagoniste du film, c'était pas intentionnel à l'origine.
And many times I mention this word like truth. It has to be truthful because the documentary without truth is nothing. Then you just make a fiction. But it has to be a moment of truth. And the presence of the camera. How can you still say that this truth if the camera is there? The camera changes everything. It distorts the reality. The reality is different without camera and with camera. So in this case, with the filming, this old lady was especially difficult because she is living in this really small apartment, and then you are coming in with this big camera and light. How can you stay? Okay, you cannot tell this old lady, pretend that we are not there, like many filmmakers do, you see. Pretend we are not there. Of course we are there, and how she will pretend. She's not used to cameras, and she's not used to pretending in front of the cameras. So we had to invent our own way how to deal with this situation. And it was a special method that we used to how to still make this camera invisible. And now I'm speaking about this big Ariflex camera. It's not like a kind of the small digital. No, it's a big camera. And we still need to make the camera invisible. So I remember we found this. We really discussed how to do that. And then we decided that then we enter this apartment. I will be the nice guy. I will be the one who will be eating apple cake with her and drinking tea and listening to all the stories. And the cameraman will be invisible guy, who is not even, if she say hello, he should not answer. Just silent, no answer, nothing, no reaction, no apple cake, no tea, nothing. So... And we did it for several days. And then this old lady understood, okay, I'm a normal guy. With me, she can drink tea and eat apple cake and speak about life. And this is a strange guy. And then the moment I used to leave the apartment, she started to act like she used to do in the normal life. Because this is a strange guy who doesn't speak, doesn't do nothing, doesn't react. So it's like a furniture, a piece of furniture in the room. And that's how the camera became invisible. So all these scenes that you see in the film, they are not asked somehow, run there, do something. No, she did as she did in every day without my presence. The moment I enter the apartment, of course, that's the story again. The soup, the tea, and the conversations.
C'est vrai que j'ai déjà beaucoup parlé de mon rapport à la vérité dans le cinéma documentaire, et je pense que c'est vraiment la clé de voûte de n'importe quel documentaire, sans quoi on fait de la fiction. Et ici, la présence de la caméra, c'est vraiment une question qui est extrêmement particulière et sensible, puisque la présence d'une caméra, par essence, elle va transformer la réalité. Elle va tordre la réalité, surtout que cette femme vivait dans un appartement qui était particulièrement exigu. On tournait avec une caméra très imposante, une Arriflex, on n'était pas avec une petite caméra DV, donc c'était vraiment pas évident qu'elle fasse abstraction de la présence de cette caméra. On dit souvent, dans le documentaire, on pense qu'on va arriver sur le plateau et dire au sujet « faites comme si on n'était pas là », mais pour une femme comme ça, c'est pas du tout dans son habitus, c'est pas une actrice, et donc il a fallu qu'on développe une méthode pour qu'elle oublie la caméra et qu'on arrive d'une certaine manière à rendre la caméra invisible. On a beaucoup discuté avec mon chef opérateur pour développer cette méthode, pour y parvenir. Et puis en fait, je me suis dit, on va jouer des rôles. Moi, je vais être le type sympa qui va s'asseoir à sa table, prendre une part de tarte aux pommes, boire son thé, et puis on va papoter, on va partager des anecdotes. Et le chef opérateur, lui, il sera l'homme invisible. C'est-à-dire que si elle le salue, il doit l'ignorer. C'est sa consigne. Il n'a pas le droit de goûter aux tartes. Il n'a pas le droit de goûter au thé. Et ça a duré comme ça plusieurs jours. Et puis je pense qu'elle a fini par se dire, OK, moi, elle m'identifie comme le type normal. Et elle a compris que mon chef opérateur, lui, c'est le type bizarre. Et donc, dès le moment où je pars de chez elle, elle n'essaye plus d'interagir avec lui. Elle vit sa vie. Et elle voit ce type à la caméra comme quelqu'un d'un peu spécial, qui est muet, qui est invisible, qui fait littéralement partie des meubles. Et donc, on ne lui donnait pas du tout de consignes. Simplement, il était en train de filmer, elle vivait sa vie. Et dès le moment où j'entrais dans l'appartement, là, tout de suite, ah, est-ce que tu veux du thé? Est-ce que tu veux de la soupe?
Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce film, qui, du coup, finalement, est une sorte de... en plus d'être une réflexion sur la lutte pour la jeunesse, pour contre la mort, contre le temps, et en même temps est un manifeste de vivre ensemble, en fait, de comment on peut faire des films avec les gens et aussi inclure finalement les spectateurs et les spectatrices, puisque il y a cette invitation à respirer avec le film. À partager une expérience qui n'est pas une expérience narrative, qui est une expérience sensorielle, une expérience multiple, et tout en partageant le sommeil de cette femme. Et peut-être que tout le film est le rêve de cette femme-là, qu'on voit s'endormir et se réveiller plusieurs fois dans le film, et que finalement on rentre dans le rêve de cette personne, comme tu disais, souhaiter le faire tout à l'heure. Et j'aimerais revenir, si on a encore une minute ou deux, sur quelque chose que tu avais dit quand tu étais venu rencontrer mes étudiants et mes étudiantes à Lausanne. Tu avais dit que quand tu écrivais un film, quand tu pensais un projet, tu te racontais une histoire à leur propos, et que le film résultait de la rencontre entre cette histoire que tu te racontais et la leur. Et j'aimerais bien que tu reviennes sur cette idée que j'ai trouvée très belle.
Then you deal with the it's a different with the fiction film, because the fiction film is from very beginning, it has a story. And the story, you can control the story. You can write, you can change it. But with the reality, sometimes it just flows, and there is no story in this reality. So you, in a way, you have to find the structure in this kind of in the flow of time. And this, sometimes I use this as a method for many of my films. I invent I tell to myself kind of a fairy tale, because the fairy tale is something that has the structure inside, a very strong structure. And maybe the audience will never read this or understand, and this is just for myself, to see how it goes and to structure something. The time with just is passing by. So in every core, if you dig very, very deep, there is a fairy tale. A strong, sometimes it doesn't look like a normal fairy tale. It's a strange fairy tale. But it is. Like if I would say, some of you maybe saw the flying over the blue fields. For me, it was a fairy tale about a man who had a party with his friends, was making planes. He had the party with his friends. They were sitting and drinking and singing. And then he took his plane and he flew into the sky. And then he came back. The world was empty. There was not a single person there. So that was a fairy tale. And this is how it helped me to construct. With the film, in a film that we are going to see tomorrow, it's going to be a fairy tale about a woman who lived her last 3 days in this place, and then she came back after 10 years, and the place was totally ruined by the time. Again, you're not going to see this in the film, but it's... And for this film, actually, I wouldn't call it... Maybe that's not a fairy tale, but that's 3 days and 3 nights of this old woman who is living alone in this small, small apartment. And with this dream of youth, actually... I understood the last scene of what you saw in the film. I thought that will be one of the scenes, but then I understood that it is the ending scene where I saw the hand floating in the air, so without totally weightless, like a dust just flowing there. And then I thought, this is what our life is, what is this, our youth is, what is our time is, totally without weight, something that is vanishing so quickly, and something that you cannot touch, it just disappears so quickly. So that's more it was a reflection on what time does to us, and why one day we are young and next day we are not, one day we are here, next day we are not. So that was the thought. And at the end of the film you saw the dedication is dedicated to my teacher, Henrikas Šablevičius. He was my teacher and my very close friend. And he died. He was such a brilliant person with a lot of energy, humor, and suddenly, like in half a year, became weaker, 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 and disappeared. And he's not with us anymore. So I thought, it's like this kind of dust in the wind. It's here, and then it just disappears.
Alors, à mon sens, c'est la différence justement entre la fiction et le documentaire. La fiction part d'une histoire qu'on maîtrise et qu'on peut modifier à l'envi, alors que le documentaire, justement, je pense qu'il s'intéresse à la vie qui se déroule, mais qui n'a pas de structure évidente, et c'est à nous, documentaristes, de trouver cette structure intrinsèque. Et une méthode que j'aime utiliser, c'est que je me raconte justement un conte pour essayer de trouver une structure qui serait propre à l'histoire que je vais raconter, puisque les contes ont justement une structure intrinsèque qui est très forte, qui est très établie. Et le public, souvent, ne verra pas cette structure-là, mais ça me sert à me donner une direction, à me donner un cadre J'aime structurer comme ça, ça me fait réfléchir à mon approche du temps à chaque film. Et je pense que si on dissèque chacun de mes films, à l'intérieur, on va trouver un conte, mais pas un conte normal, un conte étrange. Flying Over Bluefield, par exemple, je me suis dit que ce serait la légende d'un homme qui commence par faire la fête avec ses amis, ensuite il se fabrique un avion, ensuite on le revoit faire la fête, il boit, il chante, et puis il part dans le ciel avec l'avion qui s'est construit, et quand il revient, le monde est désert, il n'y a plus une âme en vue. Et donc c'est un conte, et ça m'aide, je pense, à imaginer le film. Demain, vous allez voir un autre film qui raconte les trois derniers jours d'une femme dans un endroit donné, et puis elle revient 10 ans après au même endroit, et elle s'aperçoit que cet endroit qu'elle aimait tant a été ravagé justement par le passage du temps. Mais ce conte-là, encore une fois, il est invisible. Ici, dans le film, c'est peut-être moins un conte, mais c'est plutôt l'histoire de 3 jours et 3 nuits dans un appartement à suivre le rêve de jeunesse d'une femme. Et la dernière scène du film, je pensais l'intégrer plutôt dans la structure, et puis elle m'est apparue comme l'épilogue. J'ai compris que c'était l'épilogue et c'était une évidence, cette main qui flotte, qui est légère comme une poussière. Et ça nous fait, je pense, ça fait écho à notre existence, à notre jeunesse, au temps qui passe. Il y a une légèreté. Le temps, par définition, il est impalpable. Et puis, voilà, ça disparaît tout de suite. Je pense que le film interroge aussi, d'une certaine manière, l'effet du temps sur nos vies. C'est-à-dire qu'on est jeune et puis le lendemain, on n'est plus. On est présent et puis le lendemain, on ne l'est plus. Et c'est pour ça que j'ai dédié le film à Chablanicus, qui était mon maître et un ami très proche, qui était un homme d'une énergie et d'un humour exquis. Et puis, en 6 mois, je l'ai vu s'affaiblir de jour en jour, et il est devenu comme ça, comme une poussière qui est propulsée par le vent.
Merci. Merci pour ces films qui sont vraiment très beaux. J'avais une question un peu plus générale, parce que j'avais suivi votre masterclass, et je voulais savoir comment vous êtes devenu à la fois au cinéma et au documentaire. J'ai compris qu'il y avait une tradition du documentaire poétique en Lituanie. Peut-être que tes professeurs vous ont influencé, mais je voulais savoir un peu c'était quoi cette étincelle initiale que vous avez eue. Pourquoi en 1989-90 vous lancez dans le cinéma et pourquoi dans le documentaire ?
I have to say that especially in 89 and 90 we all understood that the reality of the life is much more interesting than any fiction, and there are so many stories to tell, and you don't need to invent them, you don't need to buy if there are stories. And I don't trust my fantasy. I think the reality is much more interesting than anything that you can imagine or make into the script, a fictional script. And I'm always right about that. Anything that I, even for the documentary thing, if something that I imagine in reality, I get something much more interesting. So I trust this, and there are still things that I discover, and I'm always surprised. So I don't have time for inventing something, some fictional stories. I think this is terribly boring to do that. It's so much more interesting to go and to discover things unexpected, to wait for these miracles to happen, to not to know what is going to happen. This is the excitement of cinema, not something that you thought in your mind, wrote on the paper, draw in the storyboard, and then film with your cameraman. I think this is terribly boring. I'm sorry for the fiction filmmakers, but this is, I don't see any excitement in the fiction.
Je pense qu'effectivement, dans les années 89-90, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a tous compris, les cinéastes de l'époque, que la réalité était bien plus intéressante que n'importe quelle fiction. Pourquoi est-ce qu'on inventerait des histoires alors qu'il y en a tellement déjà autour de nous ? Et je ne fais pas confiance à l'imagination. Je pense que le monde est tellement plus intéressant, la réalité est même toujours plus intéressante en fin de compte que ce qu'on avait pu anticiper. Puis j'ai pas le temps d'inventer, je trouve ça tellement ennuyeux, je préfère aller à la découverte, ne pas savoir ce à quoi je me confronte, et puis de temps en temps arriver face à un miracle. C'est vraiment ça la forme de cinéma qui me stimule le plus, alors que s'il faut écrire une histoire, ensuite faire un storyboard, ensuite filmer chaque plan avec un chef opérateur, c'est pas du tout quelque chose qui me stimule, et désolé s'il y a des cinéastes de fiction dans la salle.
On va devoir s'arrêter. On va s'arrêter sur cette conviction en faveur du documentaire qui nous touche particulièrement, comme plusieurs d'entre nous ici. Et merci pour cette séance et pour cette discussion.
Thank you very much for to end this our session. I just want to give you a very nice advice that this old woman gave us. I was really surprised that she's 80 plus, I don't remember, 85, but no wrinkles, if you remember. Her face is totally... And I said, how can you... Why are there no wrinkles? And she said, every morning when I wake up, I do like this. Without touching the skin. For 10 minutes... And then said, that's why my skin is so bright. So you can try this too.
Thank you for this very precious advice.
Juste donc un conseil anti-rides de la femme qui est une octogénaire dans le film. Je lui ai demandé comment ça se fait que vous n'ayez aucune ride. Et en fait, il faut se faire des guillis sans toucher le visage pendant 10 minutes chaque jour.
Merci beaucoup Caroline, merci beaucoup Audrius, merci Émile. Et sur ces conseils beauté, je vous souhaite une très bonne soirée. Et demain, on est à nouveau là pour The Woman in the Glacier, qui a été évoqué ce soir à 20h en présence d'Audrius. Audrius repart vendredi, donc soyez au rendez-vous et bonne soirée.